11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal avec Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Namori, bonjour à toutes et à tous. Les droits de douane américains et la guerre économique que se livrent les États-Unis et la Chine. Pour Washington, la balle est dans le camp de Pékin. La Chine suspend les livraisons de Boeing et dit ne pas avoir peur de se battre, nous expliquera notre correspondante à Pékin, Cléa Broadhurst. Les coupes budgétaires massives sur les agences américaines scientifiques auront des conséquences en dehors des États-Unis. Un exemple dans ce journal avec un membre du GIEC qui détaillera concrètement les répercussions pour les recherches sur le climat. Au Niger, une enquête de grande envergure lancée par les autorités pour tenter de retrouver une citoyenne suisse et nigérienne enlevée dimanche à Agadez. Un très important dispositif de recherche a été déployé dans la région, sans résultat pour l'instant. Les artisans du chantier de Notre-Dame de Paris à l'honneur, ils étaient une centaine hier à se voir décerner la Légion d'honneur ou la médaille de l'Ordre national du mérite, les plus hautes décorations françaises, une très grande fierté pour les bénéficiaires. La guerre commerciale mondiale, la Chine dit n'avoir pas peur de se battre avec les États-Unis. Les États-Unis indiquent encore la Chine doivent cesser d'exercer une pression extrême, cesser de menacer, de faire du chantage et doivent discuter avec la Chine sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel. Pékin juge bien ce matin que le climat économique mondial est devenu trop complexe, plus difficile depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le président américain qui s'est emparé dès son arrivée des droits de douane, 145% de surtaxes imposées par Washington depuis le mois de janvier, ce qui nécessite des mesures proactives, a affirmé le gouvernement chinois, un terme vague mais dont l'application est bien concrète. La Chine vise l'un des fleurons américains puisque le pays vient d'ordonner à ses compagnies aériennes de suspendre les livraisons de Boeing et de mettre fin à l'achat de pièces d'avion fabriquées aux États-Unis. Les explications de Cléa Broadhurst à Pékin.
Cette décision, qui touche directement Air China, China Eastern et China Southern, concerne 179 appareils attendus entre 2025 et 2027. Certaines livraisons finalisées pourraient être acceptées au cas par cas, mais de nombreuses commandes sont gelées pour une durée indéterminée. Le gouvernement chinois envisage des aides aux compagnies nationales qui louent des Boeing pour compenser l'impact financier. Le constructeur américain, déjà affaibli par des scandales de sécurité, des grèves et des retards de production, pourrait perdre 2,5 milliards de dollars. Face à cette suspension, la Chine explore plusieurs alternatives. D'abord, Airbus apparaît comme le grand gagnant. Pékin pourrait renforcer ses commandes auprès du constructeur européen qui dispose déjà d'une ligne d'assemblage à Tianjin. Autre option, miser sur l'avion moyen courrier chinois, le Comac C-919, un appareil encore en phase de déploiement et qui dépend en grande partie de composants américains, ce qui serait un paradoxe pour Pékin qui veut justement réduire sa dépendance. Et d'autres options incluent un rapprochement avec des fabricants émergents comme la Russie. Cette suspension marque une escalade dans la guerre commerciale sino-américaine avec des répercussions mondiale cette fois-ci sur l'industrie aéronautique. Cléa Broadhurst, Pékin, RFI.
Et la Maison-Blanche estime ce matin que la balle est dans le camp de Pékin et que c'est la Chine qui a besoin d'un accord et non l'inverse. Toujours concernant les conséquences de ces droits de douane, pour le secteur automobile, le japonais Honda annonce relocaliser aux États-Unis la production de son modèle hybride Civic, actuellement fabriqué au Japon et dont l'importation est soumise à des surtaxes douanières américaines de 25%. Grand promoteur de la vérité alternative, Donald Trump ne l'est manifestement pas d'effet scientifique. Depuis son retour à la Maison-Blanche, des centaines d'employés ont été licenciés à l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère. Des sites internet gouvernementaux contenant des données sur la météo et le climat ont été supprimés. Et ce n'est peut-être qu'un début, selon plusieurs médias américains. L'administration Trump prévoit de réduire le financement de la recherche climatique et de licencier des centaines d'autres scientifiques. Des attaques qui pourraient avoir des effets au-delà des États-Unis, prévient la climatologue française Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche CEA au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Elle est également coprésidente du GIEC.
La recherche américaine, elle pèse pour environ un quart de la recherche, par exemple, sur le changement climatique dans le monde. Et donc, le fait qu'il y ait moins de financement de thèses sur ces thématiques-là, moins de financement de contrats pour de jeunes scientifiques, c'est moins d'opportunités pour l'ensemble des jeunes scientifiques qui, souvent, dans leur parcours professionnel, vont se former dans les meilleurs laboratoires aux États-Unis. On a également des échanges scientifiques qui sont amoindris. J'ai des relations professionnelles avec des collègues américains depuis très longtemps. Ceux qui sont fonctionnaires fédéraux ont l'interdiction d'échanger avec leurs collègues internationaux. Donc je n'ai plus en fait aucune réponse aux échanges professionnels que je pouvais avoir précédemment avec ces collègues scientifiques américains. Pour l'instant, on peut continuer à s'appuyer sur les bases de données qui sont archivées aux États-Unis, mais on a une très grande inquiétude parce qu'on est très nombreux dans le monde à utiliser ces bases de données. Il y a un effort qui est en cours, une réflexion pour construire en fait des sites miroirs qui archivent et rendent accessibles ces données de sorte à permettre de continuer à les utiliser si jamais ces sites internet deviennent inaccessibles.
La climatologue française Valérie Masson-Delmotte, jointe par Pauline Glaise. Gaza est devenue une fosse commune pour les Palestiniens et ceux qui leur viennent en aide. Médecins sans frontières dénonce vivement les opérations militaires et le blocus imposé par Israël sur l'aide humanitaire. Nous assistons en temps réel à la destruction et au déplacement forcé de toute la population de Gaza, déclare la coordinatrice d'urgence de MSF à Gaza, qui estime que la réponse humanitaire est gravement entravée par l'insécurité constante et les pénuries critiques. Et ce matin, le ministre israélien de la Défense affirme de nouveau qu'aucune aide humanitaire n'entrera à Gaza. Après plus de 3 ans de négociations, les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé approuvent un texte historique visant à mieux se préparer et lutter contre les futures pandémies. 5 ans après l'arrivée du Covid-19, ces millions de morts et une économie mondiale dévastée, l'accord doit permettre de mieux préparer le monde, loin d'être équipé pour affronter une autre pandémie. Au Niger, une enquête lancée par les autorités pour tenter de retrouver la trace de Claudia Apt, citoyenne suisse et nigérienne âgée de 67 ans, enlevée dimanche soir à son domicile d'Agadez, dans le nord où elle résidait depuis plusieurs années. Un enlèvement 3 mois après celui d'une Autrichienne dans la même ville et dans des conditions similaires. Les précisions d'Alexis Guilleux.
Une enquête de grande envergure, c'est ainsi que l'agence de presse officielle du Niger décrit les opérations en cours pour tenter de retrouver la trace de Claudia Apt 48 heures après son enlèvement à Agadez. Fouilles minutieuses des lieux suspects, contrôle des véhicules. Les forces de défense et de sécurité nigériennes cherchent des indices dans toute la région, détaille l'agence nigérienne de presse. Une zone désertique qui touche la Libye, l'Algérie et le Mali. Dès le lendemain de l'enlèvement, lundi, un conseil régional de sécurité s'est réuni. Le gouverneur a annoncé le déploiement d'un important dispositif pour traquer les ravisseurs. Selon l'ANP, la population se mobilise elle aussi pour Claudia Apt, installée à Agadez depuis plusieurs années, mariée à un Nigérien et à l'origine d'une association pour soutenir les artisans. Son enlèvement n'a pas été revendiqué, pas de revendication non plus. 3 mois après celui d'Eva Gretzmacher, c'était également à Agadez. L'Autrichienne de 73 ans n'a à ce jour pas été retrouvée.
Ils étaient 100 fonctionnaires, entrepreneurs ou artisans issus du chantier de Notre-Dame de Paris à se voir décerner hier la Légion d'honneur ou la médaille de l'Ordre national du mérite. Ce sont les plus hautes décorations françaises. Cette génération Notre-Dame, selon les mots du président français Emmanuel Macron, représentait l'ensemble des 2000 personnes ayant contribué à la reconstruction de la cathédrale avant d'être décorée avec ses compagnons, comme il les appelle. Philippe Jost, le chef d'orchestre des opérations qui ont permis cette reconstruction, s'est exprimé à son arrivée au micro de Tom Malky.
Cette réussite, c'est une réussite française, c'est une fierté française, et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit aujourd'hui à l'Élysée. Les gens disent tous, on a vécu l'aventure d'une vie. Voilà, on a vécu ça une fois dans notre vie, on revivra peut-être probablement jamais quelque chose d'aussi fort. Ils le disent spontanément, ils le vivent. Et puis ce qui est beau, c'est que ce soit collectif. Vraiment, et ça je crois que le président de la République, il a voulu que ce soit un moment collectif, que l'on vive tous ce moment comme on avait vécu le chantier ensemble, qu'on vive cette mise à l'honneur ensemble. C'est une page qui se tourne, c'est sûr, on l'a tous vécu, mais l'aventure continue parce que la générosité a été telle qu'on a de quoi engager des nouveaux travaux dont la cathédrale a besoin, parce qu'au moment de l'incendie, la cathédrale avait déjà besoin de travaux et on peut donc les engager maintenant. Alors on est moins nombreux qu'avant, il y a des corps de métier qui se sont éloignés du chantier, mais quelque part on continue dans le même état d'esprit. Parce que c'est une belle atmosphère et que c'est ce que Notre-Dame mérite.
En France, toujours encore une prison visée par des incendies volontaires. 3 véhicules ont été incendiés devant la prison de Tarascon, dans le sud du pays, au lendemain d'attaques coordonnées contre plusieurs établissements pénitentiaires dans le pays. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête pour tenter d'identifier les auteurs de ces faits. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, estime qu'il y a manifestement des gens qui essayent de déstabiliser l'État en intimidant, alors que le gouvernement est engagé dans une lutte contre le narcotrafic. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est Priorité Santé avec Caroline Paré. Caroline, bonjour.
Bonjour Olivier Sherman, merci beaucoup.